à tous et à toutes et bienvenue au podcast de Game Info. Aujourd'hui, je serai en compagnie de Ben.
Salut à tous.
Et de Dwayne.
Salut tout le monde.
Au sommaire de l'actualité cette semaine, on vous parlera de Steamboat Billy, on enchaînera ensuite sur la licence Stalker, nous évoquerons également Atomic Hearth, nous parlerons de Rage 2, du studio de Cliff Bleszinski qui a fermé ses portes, on enchaînera ensuite sur Divinity Original Sin 2, et enfin, on terminera cette semaine d'actualité avec Valve qui fait encore n'importe quoi, mais on verra ça tout à l'heure à la fin de l'émission. Sans oublier le jeu qu'on va défoncer cette semaine, ça s'appelle A Way Out. Allez, c'est parti, on va commencer avec Steamboat Billy. Steamboat Billy, qu'est-ce que c'est? C'est un mélange entre Zelda et Pokémon. Bon, j'ai dit Zelda, mais pour être plus précis, le Zelda, c'est Wind Waker, parce que vous allez incarner un petit personnage qui va se balader dans un univers maritime avec un look à la Cuphead, c'est-à-dire, vous savez, ces dessins animés des années 30, etc. Sauf que lui, il sera en noir et blanc, et on jouera un personnage qui, justement, cherchera à remettre de la couleur dans le monde, parce que ce monde a été maudit par un démon, n'est-ce pas? Qu'on va devoir combattre en chopant des bestioles, en faisant du craft, etc. C'est un projet Kickstarter, hein, bien évidemment. Et c'est peut-être là, justement, que j'aurai un petit bémol, parce que j'ai l'impression que c'est un jeu qui cherche à faire beaucoup de choses, qui a beaucoup d'ambition. Donc, c'est un jeu qui demande 42 000 euros. Ils en sont à 12 656. C'est pas beaucoup, vu toutes les features qu'ils proposent. Hein, je veux dire, il y a du craft, etc. Donc, bref. En tout cas, visuellement, c'est extrêmement charmant. C'est un projet qui nous vient du Canada, n'est-ce pas? Je suis très curieux de voir la suite, même si, voilà, je suis dubitatif d'un point de vue budget.
Ouais, surtout qu'en fait, c'est le genre de projet que tu vois arriver. Enfin, moi, quand j'ai ouvert le truc, c'était avec un peu de dédain, tu sais, je m'attendais vraiment au projet un peu opportuniste qui vient surfer sur la vague Cuphead, quoi. Et finalement, je trouve que ça a l'air un peu plus recherché que ça. Mais comme tu dis, hein, toutes les influences, déjà, en plus, ils les citent toutes.
Ils les assument,
ils sont, voilà, ils les assument, ça, c'est, déjà, ça va. Mais derrière ça, moi, déjà, le fait d'avoir ce visuel un peu à la Cuphead, et ils rajoutent aussi un style animé japonais, enfin, léger, à cette ambiance dessin animé des années 30. Et derrière ça, bah, le gameplay au tour par tour, avec l'exploration, ça peut donner quelque chose de sympa, mais effectivement, trouver un équilibre de tout ça, ça va peut-être être un peu compliqué, comme tu l'as dit.
Et puis, je veux dire, je suis fan du design des bestioles pour le moment. C'est vraiment un croisement entre Pokémon et les cartoons des années 30.
Ouais, c'est
franchement,
génial.
C'est super cool, quoi. Alors, s'il va falloir faire de la collection de toutes ces bestioles-là, je prends. Bon, après, évidemment, c'est très compliqué de faire un super jeu là-dessus. Enfin, je veux dire, quand t'as Pokémon en face, les mecs, il va falloir assurer, quoi. Ah, et aussi, un autre point. Alors, je veux bien que vous vous inspirez de Wind Waker. Par contre, il va falloir trouver des trucs à faire quand on se bat sur la flotte, hein.
Ouais, mais c'est ça. C'était horrible, moi. Ça me saoulait parfois dans Wind Waker. Et t'étais là, je fais... Ok, très bien. Je me balade. Ouais, exactement. C'est vraiment le début de Steamboat Willy. C'est tu siffles, quoi.
Bon, allez, on va enchaîner sur une licence très chère à mon cœur. Et cette licence, c'est Stalker. On va vous parler d'un mode, n'est-ce pas? Ce mode, c'est l'ABR mode. Et qu'est-ce qu'il fait? Ce mode, bah, tout simplement, il remet Stalker Call of Pripyat au goût du jour d'un point de vue technique. Alors, c'est pas non plus un truc de ouf, gueudin, malade, qui va transcender le jeu totalement. Mais quand tu vois ce mode et que tu vois le résultat, tu dis Call of Pripyat, c'est déjà un jeu qui était pas mal à la base. Et là, c'est vrai que, franchement, c'est agréable à l'œil, quoi. En plus, ça rajoute des conditions météorologiques, etc. Je rappelle que Call of Pripyat, c'était un monde ouvert qui jouait énormément sur la météo et le danger que celle-ci pouvait causer, hein. Quand il commençait à y avoir une tempête dans la zone, je peux vous dire que vous commenciez à serrer du slip, hein, parce que... On va dire que les tempêtes dans la zone, elles sont un tout petit peu dangereuses et qu'il y a de fortes chances de crever et qu'il faut tout de suite trouver un abri pour essayer de survivre, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, un mode, ma foi, que je pense que j'installerai avec plaisir parce que ça fait un moment que je me tâte pour reprendre Call of Pripyat. C'est un peu comme Deus Ex, quoi. Dès que quelqu'un en parle, t'as envie de le réinstaller. Bon, d'ailleurs, à propos de Stalker, toujours, l'annonce de la semaine, Stalker 2 est de retour. En 2021. Ouais, parce que bon, j'ai beau être fan de Stalker, quel intérêt en fait? Non mais sérieusement quoi, ça me fait plaisir, tu vois, je suis content les mecs, hein, vous bossez sur Stalker 2 et tout, il y a quelques années aussi vous bossiez sur Stalker 2, hein, soit dit en passant, et est-ce que vous pourriez pas, genre, attendre, je sais pas moi, au moins un an avant que le projet sorte, pour en parler quoi, parce que là je veux dire, en gros, t'as un site teaser de merde avec marqué 2021 dessus, ouais super, cool story bro quoi. Écoute, tu viendras me voir quand t'auras terminé le jeu. C'est cool de nous dire que vous bossez dessus, mais bon, on attendra d'avoir plus, hein, parce que moi, on m'a déjà fait le coup, hein, si je puis dire.
Ouais, c'est exactement ça. C'est les annonces comme ça, c'est toujours assez compliqué. Là, l'annoncer plus de 3 ans en avance, on sait qu'aujourd'hui, c'est rare sont les jeux qui sont annoncés et qui sortent à la date de sortie déjà. Mm. Donc, en plus, en prenant le risque de l'annoncer 3 ans avant, je vois pas à quoi ça peut leur servir, en fait, tout simplement.
Et puis, même pour élargir un peu le sujet, enfin... Moi, j'en ai marre de ces jeux qui s'annoncent trop longtemps à l'avance, quoi. À quoi ça sert, même d'un point de vue communication?
Oui, c'est ça, ouais. Que ce soit marketing, communication, commercialement, enfin, je vois pas le réel intérêt de l'annoncer aussitôt.
Parce que, je veux dire, forcément, les gens vont oublier, en fait. C'est ça le problème, quoi. Ça sert à quoi de le dire maintenant? C'est, oh, en fait, on n'est pas mort, hein, nous oubliez pas, oh, oh. Et c'est pareil pour les grosses productions. Tu sais, ces grosses productions qu'on t'annonce à l'E3 pour faire genre, etc. Et 2 ans après, t'as toujours pas de nouvelles du jeu, quoi. Enfin, honnêtement, je préfère la méthode Bethesda, où, en général, le jeu, il va sortir 6 ou 8 mois après. Bon, malheureusement, Bethesda, ils ont un autre problème, c'est que à la veille de sortir le jeu, ils oublient de communiquer dessus, quoi. Mais ça, c'est un autre souci. Quoi qu'il en soit, cette manière de communiquer a un effet que moi, je qualifierais de pervers, à savoir que les développeurs finissent par trop communiquer sur leur jeu, et le résultat des courses, c'est qu'on a vu trop de choses sur le jeu avant qu'il sorte, quoi. Par exemple, on parlait tous ensemble de Kingdom Hearts tout à l'heure. Moi, je trouve qu'ils commencent à montrer un peu trop Kingdom Hearts, en fait. Et Dieu sait que ça fait longtemps qu'on attend ce jeu aussi, tu vois.
Non, mais c'est sûr. Après, moi, je pense qu'il y a aussi un côté... parce que là, ça fait très longtemps qu'on n'en a pas entendu parler. Je pense qu'ils veulent le remettre dans les esprits. Et puis un peu avoir une communauté autour des développeurs. Parce que parfois, quand tu développes quelque chose, t'es un peu en sous-marin, on va dire, en secret. Donc, c'est peut-être aussi redonner un peu de pêche aux développeurs qui puissent parler avec la communauté. Je pense qu'il y a plus ce côté-là, plus qu'une stratégie pure communication ou dire on va parler du
ou
jeu.
Ou alors, quoi. Est-ce qu'ils préparent la sortie en accès anticipé, peut-être?
Ah, tu rigoles, mais c'est c'est possible. Hein.
Je rigole à moitié. Hein,
ouais, c'est ça.
Bah aujourd'hui, faut se méfier, ouais, avec ça.
Bon, après, je pense que typiquement, Stalker, c'est une licence qui aurait bien besoin d'un accès anticipé. On se rappelle tous l'état dans lequel est sorti le tout premier Stalker. Et la preuve, hein, il a fallu attendre Call of Pripyat pour qu'ils maîtrisent enfin leur sujet et qu'on ait un Stalker qui soit à peu près, je dis bien à peu près, hein, à peu près propre, quoi. Donc, voilà. Bon, en tout cas, j'aime Stalker, j'adore cette licence. Donc, écoutez, on se retrouve en 2021, hein. Salut les mecs. Bon. On va maintenant parler d'un autre jeu qui me rappelle un peu Stalker, et ce jeu, c'est Atomic Heart. Alors justement, on parlait de studio peut-être un poil trop ambitieux tout à l'heure. Là aussi, c'est un projet qui fait peut-être un peu peur, parce que, bon, déjà, ça vient d'une équipe inconnue qui sort de nulle part, des pays de l'Est. C'est un FPS en monde ouvert, dans un univers un peu rétro-futuriste, mais du côté des pays de l'Est, avec des robots rondouillards qui rappellent un peu Nier Automata, mais avec une ambiance aussi à la Stalker, parce que, enfin, je dis à la Stalker, mais en vrai, c'est une ambiance comme tous ces jeux qui viennent des pays de l'Est, et qui ont tous eu la même influence, qui ont tous connu la même architecture, etc. Enfin, tu vois que les auteurs, entre guillemets, ont été élevés dans le même moule, mais par contre, on peut pas lui retirer qu'il y a quelque chose d'unique qui se dégage de ce jeu-là, rien que pour la tronche des robots qui, franchement, ont une personnalité, enfin, je sais pas, tu vois le design, il y a quelque chose qui se dégage. Par contre, ouais, le côté monde ouvert, j'incarne un agent secret qui va se retrouver dans un environnement hostile où il va falloir découvrir ce qui s'est passé, etc. J'ai peur que le studio, un peu comme le tout premier Stalker, se retrouve face à un projet un poil trop ambitieux par rapport aux moyens du studio. Mais écoute, je lui laisse le bénéfice du doute en tout cas, parce que d'un point de vue technique, quoi qu'il en soit, c'est super joli. Et la direction artistique, wow!
Non, comme tu l'as dit, ouais, direction artistique au top, super ambiance. Après, j'ai regardé un peu, j'ai pas l'impression qu'il soit backé, qu'il y ait un gros budget. Donc du coup, il faudrait vraiment, si t'es sur un premier projet, faire quelque chose d'un peu plus restreint, montrer en gros qui tu es, quoi, pour ensuite, peut-être, sur une suite, bah, te développer. Mais vraiment, le fait de partir tout de suite sur un monde ouvert et sur quelque chose d'énorme, alors qu'il n'y a rien derrière et que c'est un studio qu'on ne connaît pas, moi, ça me fait vraiment... vraiment très peur, mais comme on l'a dit...
Avec
ouais, là...
des environnements variés en plus, parce que ouais, il y aura ça. Des environnements apparemment un peu neigeux, il y aura de la forêt, etc. Enfin, ouais, voilà quoi.
Pour moi, sur un premier projet, il n'y a rien de mieux que d'être vraiment focus, en fait. Et après, lorsque tu as effectivement bah, une communauté derrière toi, des fonds, à ce moment-là, effectivement, tu peux partir sur quelque chose d'ambitieux, bah, comme ce qu'ils veulent proposer. On a presque l'exemple avec... No Man's Sky aussi, il y a plein de choses, malgré le fait qu'ils aient été backés. C'est des trucs où ils partent sur quelque chose d'extrêmement ambitieux avec toute la bonne volonté du monde.
Pour les défendre, avec l'accès anticipé, il y a moyen de faire quelque chose. Hein. Regarde Subnautica, ouais. Par exemple, c'est du monde ouvert, les fonds marins sont super travaillés, enfin, il y a vraiment un énorme taf quoi sur Subnautica, ouais. Et c'est du double A aussi, tu vois. Pour peu qu'ils se démerdent bien, en fait, il y a moyen de trouver du pognon quelque part, quoi. Faut juste pas qu'ils nous la fassent à la Kingdom Come Deliverance où on trouve des fonds quelque part, mais finalement on est un peu short et on te sort le jeu à l'arrache avec 3000 bugs derrière et il faut attendre 6 mois pour que le jeu soit fini quoi.
Ouais, ça me ferait kiffer d'avoir tort hein, effectivement qu'ils puissent être backés comme ça. Donc en tout cas bon, on verra. Moi ça me donne bien envie, même si je suis un peu voilà un peu pessimiste, mais on verra bien.
Ce qui est étonnant, c'est que le jeu est annoncé pour cette année sur Steam, en tout cas. Et si on va sur la page du développeur sur Steam, on se rend compte qu'ils vont sortir un jeu VR, là, au mois de mai cette année, et qui est vraiment dans le même style graphique. Donc, c'est assez surprenant, en fait. Parce que le jeu VR ressemble vraiment énormément, au moins en termes de design. Après, ça a l'air d'être plus un shooter qu'autre chose. Mais ouais, c'est assez bizarre.
Au moins, on peut pas leur reprocher de pas rationaliser les coups. Hein, si... Bref, en tout cas, moi, direction artistique absolument sublime. L'ambiance, j'accroche. En plus, tu peux custom tes armes, que demande le peuple. Moi, de toute façon, tout ce qui vient des pays de l'Est, en général, je suis très très client. Donc, voilà. Allez, on va maintenant parler de The Big Annonce de la semaine. Enfin, The Big Leak, surtout, n'est-ce pas? Parce que clairement. C'est un projet à la base qui s'est retrouvé, vous savez, dans la liste de leaks où il y avait la moitié. Bon, on se disait, ouais, cool story, bro. On savait qu'ils allaient l'annoncer de toute façon. Par contre, celui où on s'attendait pas dans l'eau, c'était Rage 2. Et c'est d'ailleurs pour ça que tout le monde en a parlé. Parce que pourquoi Rage 2? Je veux dire, le premier a pas fait un bid assez retentissant comme ça. Bon, après, pourquoi pas, hein, je veux dire, on peut redonner sa chance à la licence. Donc là, il y a eu un trailer de gameplay qui a été dévoilé, et j'ai envie de dire heureusement, parce que le premier trailer qu'ils avaient diffusé, c'était un trailer avec des vrais acteurs, etc. On va dire que même si c'était barré, personnellement, ça m'envoyait pas du rêve. Hein.
Cringy est le terme.
Voilà, c'est ça. Vous en pensez quoi? Il y a un petit côté Mad Max Fury Road, le jeu vidéo, j'ai envie de dire.
Moi, je suis content de pouvoir avoir un Borderlands où j'ai pas besoin de donner de thunes à Randy Pitchford, en fait.
Mais c'est totalement ça.
C'est vraiment à ça que j'ai pensé. Je me suis dit, putain, mais voilà, les mecs, c'est ça. Ils ont pris un peu la base du premier Rage, qui était, voilà, post-apo, etc. Ils ont rajouté une personnalité. On a Avalanche qui avait fait quand même un taf sympa, même si le jeu était pas fou, sur Mad Max. Et ouais, franchement, moi, ça me donne plutôt envie.
Surtout, ça a l'air d'avoir mille fois plus la pêche que Borderlands. Hein, voilà, parce que moi, j'ai joué qu'au 2, hein, je précise. J'ai joué qu'au 2 en coop. Et mon gros souci avec Borderlands, si vous voulez, c'est que j'avais plus l'impression de jouer un hack and slash mou du cul à la première personne qu'à un FPS, en fait. Et là, pour le coup, comme c'est ID qui s'occupe de la partie FPS, je suis déjà plus confiant, on va dire.
Ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en fait, j'ai adoré, justement, le Borderlands 2. Après, ouais, je vois ce dont tu parles sur les gunfights.
Après, c'est
sûr que c'est pas
le... purement personnel, hein, mais...
Ouais, ouais, non, mais ça reste pas le meilleur. Mais là, justement, on a le meilleur des deux mondes avec Id qui s'occupe de la partie gunfight et l'autre côté. En tout cas, moi, je suis chaud.
Oui, parce que, rappelons, c'est une coopération entre deux studios. ID Software s'occupe de la partie gunfight et Avalanche s'occupe de la partie open world qu'ils connaissent un peu, hein, vu qu'ils ont fait le jeu officiel Mad Max à la sortie de Fury Road. Donc, voilà.
Ouais, donc en tout cas, la coopération entre les deux studios, moi, ça me fait bien kiffer. Ils ont rajouté de la couleur au premier Rage, qui était vraiment vraiment terne à ce niveau. À côté, le gameplay a l'air de s'être amélioré. Donc, on attend de voir, mais je suis plutôt confiant.
Bon, moi j'espère juste que cette fois il y aura pas de soucis moteur, parce que c'était un peu le problème principal de Rage. Rage, c'est un peu le jeu. Ouais, alors on a fait un truc, ça s'appelle les méga textures, vous allez voir. Ouais, sauf que notre techno, elle est tellement bien en fait que du coup on se retrouve avec des chaises indestructibles qui sont collées au sol et qu'on peut pas bouger. En plus, Dieu sait que ça ramène du cul sur des PC de compète, hein, le premier Rage. Donc j'espère vraiment que cette fois le moteur ça fonctionnera bien, quoi. Bon, rien à ajouter, messieurs ?
Nope.
Non.
On va maintenant parler de Cliff Bleszinski, dont le studio vient de fermer ses portes. Je rappelle, Bosky Studio, c'est donc la structure qu'avait fondée Cliffy B au moment de son départ de chez Epic Games. Et d'ailleurs, il avait eu une idée de génie à cette époque-là. Il s'était dit, tiens, pour le premier jeu de mon studio, où je vais mettre tout le pognon de mon studio dessus, on va essayer de concurrencer un jeu Blizzard. Parce que voilà, Blizzard, c'est vrai que c'est un petit studio indé, n'est-ce pas, qui n'avait pas du tout réussi avec Overwatch à détrôner le mastodonte qui était Team Fortress 2. Donc il s'est dit, ouais, le créneau, il est pas assez bouché comme ça, je vais faire un hero shooter à moi, et ça va passer crème, tu vas voir, chérie, ça va être nickel. Bon, malheureusement, évidemment, ce qui devait arriver arriva, c'est-à-dire que le jeu a été un four absolument monumental, et il s'est dit, bah écoutez, casse la tienne, on va essayer un nouveau truc, puisque ça marche pas, on va aller sur un créneau qui est pas du tout bouché, qui est le créneau des Battle Royale. Ouais, je crois que c'est une bonne idée, on va sortir un Battle Royale à l'arrache comme ça, ça va cartonner du feu de Dieu et comme ça on va se refaire. Alors je sais pas pour vous messieurs, mais moi j'ai l'impression de voir un joueur de poker qui se dit, vas-y, je retente, ah non non ça passe pas, désolé, t'as perdu tout ton pot, merci, au revoir, tu mets la clé sur la porte.
Ce à quoi ça me fait penser, c'est le fait, enfin, il y a toujours des messages qui disent le solo c'est terminé, il y a que le multi qui fonctionne, ou voilà, maintenant qu'il y a God of War, ah regardez, en fait le solo ça fonctionne. Mais tout ça finalement, voilà, on voit que c'est des débats un peu vains. C'est juste, t'arrives sur du multi, donc évidemment si t'arrives et que tu fais la même chose que tous les autres, bah tu te foires. Et pareil avec du solo, si t'arrives et que ton truc est pas original et que tu fais la même chose, ou sinon, comme Bethesda qui fait en plus des bons jeux, t'as les problèmes de com, donc ça c'est un autre problème, bah ça se foire tout simplement, donc c'est un peu à ça que ça m'a fait penser, parce que finalement son jeu, il était pas, enfin des retours que j'ai vus, moi je l'ai pas testé, en tout cas Lawbreakers, il était apparemment pas mal, mais derrière ça, voilà, tu viens sur un créneau, voilà, t'arrives sur un créneau qui est déjà bouché, bah comme avec World of Warcraft, quoi, c'est le même principe. Et donc voilà, tu te foires tout simplement.
Parce que tu vois, on pourrait se dire ouais mais Blizzard, regarde Blizzard avec Overwatch, justement. Overwatch, ils ont réussi à prendre la place de Team Fortress 2, qui était quand même le leader contesté dans le genre, tu vois. Oui, sauf que c'est Blizzard et qu'ils ont Activision derrière et qu'ils ont masse de pognon et qu'ils ont une fanbase. Et en face, t'as qui ? T'as Cliffy B, qui est d'ailleurs pas spécialement populaire, hein. Je rappelle quand même que le monsieur est assez connu pour ses sorties assez contesté, n'est-ce pas ?
Ouais, moi j'aime bien le personnage, il est sympa.
Ah non, bon, il me fait marrer si tu veux, mais on peut pas dire qu'il est l'aura,
oui,
en tout cas
oui,
qu'il dégage
sûr,
la
oui,
sympathie
voilà.
Auprès du public que peut avoir Blizzard, etc. Il est parti en claquant la porte du monde des consoles en disant « Oui, de toute façon vous êtes tous des cons, il faut mettre une connexion permanente, blablabla. » Il allait voir les joueurs PC sur lesquels il crachait quelques années avant, hein, je rappelle quand même. Les joueurs PC c'était tous des pirates, etc. Enfin, je rappelle pas les propos du monsieur, hein. J'ai envie de dire, la leçon de cette histoire, c'est que l'herbe, elle est toujours plus verte ailleurs, mais quand tu prévois pas ton coup, en tout cas, t'as 100% de chance de te planter, quoi. Mm. Bon, on va maintenant parler de Divinity Original Sin 2, messieurs. Alors, Ben.
Oui.
Il va falloir qu'on se retrouve à un créneau avec Morane et Mamie Lamy, parce qu'il y a une version enhanced qui va sortir, n'est-ce pas? Divinity Original Sin 2, je le rappelle, c'est le jeu qu'on a essayé, je dis bien essayé, hein, qu'on a essayé de faire en coop avec Mamie Lamy, Mordren et Ben. On a malheureusement fait que le tuto, hein, le premier chapitre. Voilà.
On y a quand même joué une bonne dizaine d'heures, je pense.
Oui, bah, on a fait le tuto. Voilà.
Oui, oui, non, bah après, c'est, en toute façon, on savait très bien que c'est un jeu qu'on n'arriverait jamais à faire, parce que déjà, capter 4 jours en même temps, c'est dur. D'autant plus qu'il y en a un qui est au Canada, et qui est à 7 heures de décalage avec toi. Donc, ça paraissait un peu compliqué, mais
c'était
bon,
ambitieux, comme on était très ambitieux sur ce coup-là. Donc, Divinity Original Sin 2 va avoir droit à une version enhanced. Ça veut dire que déjà, ils vont revoir complètement l'interface, notamment pour la gestion d'inventaire. Je pense que Ben, tu approuveras le fait que c'est une très bonne idée, hein, n'est-ce pas ?
Oh oui.
Surtout vu le nombre de merde qu'on ramasse dans ce jeu. Et aussi, ils vont complètement revoir le chapitre 3, qui est un chapitre assez problématique, qui est connu en tout cas parmi les joueurs du jeu pour être un chapitre, disons, qui a quelques petits soucis de rythme, voilà, on va dire ça comme ça, d'équilibrage aussi, ce genre de choses. Enfin, Divinity Original Sin 2, c'est un jeu charmant, je pense que tu seras d'accord avec moi, Ben, mais c'est un jeu qui a une courbe de difficulté assez bizarre, c'est-à-dire que tu commences, t'en chies grave, et plus t'avances, plus il est facile. Alors, malheureusement pour mes collègues, eux, ils n'ont connu que la partie où on en chie grave, n'est-ce pas ? Mais je peux vous assurer que pour y avoir joué avec un seul perso, j'aime bien me mettre des challenges, tu finis par rouler sur le jeu, quoi.
Ouais, c'est un jeu qui est assez dur. Mm-hmm. Après, bon, on va pas revenir là-dessus, c'est, voilà, il est ce qu'il est, mais c'est un très bon jeu. Et là, pour le coup, bah voilà, la version enhanced, qui va être gratuite, du coup, pour les joueurs PC, c'est en fait, ils en profitent, ils vont sortir le jeu, donc, sur PS4 et Xbox One. Et du coup, ils en profitent pour, faire cette espèce de gros patch gratuit pour les joueurs PC, qui est bien plus qu'un patch, vu tout ce qu'il ramène, mais, donc c'est quand même une bonne chose de la part du studio. Ouais. Ils avaient fait pareil pour le premier, notamment aussi, hein. Enfin, pour le Divinity Original.
Ouais, mais justement, ils profitent à chaque fois de la sortie sur console pour faire des patchs de rééquilibrage, etc. Bon, après, dans le cas de Divinity Original Sin 2, je pense que malheureusement, il y a quelques petits soucis fondamentaux qui ne pourront pas être réglés via une version enhanced, pour la simple et bonne raison que Divinity Original Sin 2, c'est un jeu qui est très sandbox, en fait. Et de par la manière dont il a été conçu, malheureusement.
Tu peux pas gérer tous les cas, en fait, c'est impossible.
Ouais, voilà, c'est ça.
Très rapidement, dans le jeu, on peut choper soit des objets qui te permettent certaines capacités, ou même les débloquer, qui permettent de voler ou de se téléporter un peu plus loin, des choses comme ça. Et ça permet, en fait, de passer par certains endroits du jeu qui sont plus ou moins prévus, mais bon, forcément, on peut pas tout prévoir. Et du coup, bah, des fois, voilà, ça fait des effets qui étaient pas prévus, et ça peut un peu casser le truc. Mais je pense que ils jouent aussi un peu là-dessus. Eux, ça leur pose pas vraiment de problème qu'il y ait des gens, comme tu dis, qui cassent un peu le jeu en faisant certaines choses avant d'autres, etc., quoi.
Bah, après, pour moi, ça fait partie du charme du jeu aussi. Bah, ouais. C'est vrai qu'il fait un peu bancal comme ça, tu sais, il est pas un jeu équilibré, quoi, pas du tout. C'est dès que tu maîtrises les mécaniques du jeu, en fait, tu commences à faire des trucs totalement pétés. Mais moi, c'est ce qui m'amuse, en fait, dans ce jeu. Il y a des jeux comme ça, des fois, qui ont pas besoin d'être équilibrés. Le fun, en fait, ça vient justement de ce que tu vas pouvoir faire avec ces mécaniques un peu émergentes, quoi. Ok, maintenant, je vais m'amuser, je vais voir jusqu'à quel point je vais pouvoir lui rouler dessus, quoi, en fait. Bon, par contre, il y a quand même des gros soucis de conception. Je pense notamment, alors vous, vous avez pas pu trop le voir sur la partie qu'on a faite, mais vous y aviez déjà un aperçu. C'est-à-dire que ce jeu, dans sa progression, a un gros problème. Dès que t'as une armure qui est genre un niveau trop en dessous de ce qu'il faut avoir, tu te fais défoncer, quoi.
C'est ça,
c'est un gros problème, ne serait-ce que d'un point de vue immersion. Genre, ouais, j'ai récupéré l'armure légendaire, sauf que dans deux niveaux, elle sera complètement useless, quoi. Tu vois, c'est des problèmes fondamentaux que je pense pas que tu puisses rééquilibrer comme ça dans un patch. Donc, c'est très très bien. Je suis très content de voir que l'Ariane continue d'être un peu le CD Projekt belge, n'est-ce pas ? Mais par contre, la prochaine fois, il faudra peut-être essayer de faire un jeu qui n'ait pas besoin d'énormes éditions, quand même. Bon, on va maintenant terminer cette semaine d'actualité avec Valve, qui fait n'importe quoi, comme d'habitude. C'est-à-dire que, en gros, chez Valve, on est un peu embarrassé ces derniers temps, parce qu'on s'est rendu compte qu'à force de laisser rentrer n'importe qui dans sa boutique, bah, on se retrouve des fois avec quelques indésirables, notamment des gens qui mettent du cul dans leur jeu, en fait, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a 2-3 développeurs qui sont assez bruyants en ce moment sur Internet, qui ont fait savoir que leur jeu un peu olé olé, notamment un certain Unipop, qui est le plus connu des trois, je pense. Ça fait un moment qu'il est sur Steam, il est même sorti sur GOG, ont reçu un petit courrier de Valve qui leur dit « Bon, les mecs, maintenant, finis de rigoler, hein. vos jeux, ils sont un peu trop tendance porno pour nous, donc si vous ne les censurez pas, vous dégagez. Ce qui, ma foi, me paraît un peu curieux, parce que à un moment donné, je veux dire, les développeurs en question, en tout cas certains d'entre eux, affirment avoir contacté Valve pour voir avec eux si les jeux rentraient dans les clous de Steam. Et pourquoi ils ont fait ça, justement, à la base? Parce que il faut savoir que les conditions de Steam sur le sujet sont un peu vagues, quoi. C'est-à-dire que si demain on change d'avis, vous pourrez pas contester, de toute façon, on est tellement vague que voilà. Donc, ils les avaient contactés et apparemment, ils avaient reçu l'approbation de Valve. Donc, moi, à un moment donné, je comprends pas trop, tu vois. Alors, je peux comprendre que une boutique ne veuille pas de porno sur son store. Bon, sauf que là, apparemment, ce sont pas vraiment des jeux porn, hein. Certes, peut-être érotiques, etc., mais porn, peut-être pas non plus. Et surtout, à un moment donné, faut savoir ce que vous voulez, les mecs, hein. Si vous voulez pas vous retrouver avec n'importe qui sur votre store, je sais pas, contrôlez à l'entrée. Hein? Non? Non? Ah non, d'accord, ok.
Bon, en fait, ce type de news, c'est tellement ridicule que ce que je vais faire, c'est que je vais expliquer ma théorie du complot. Ma théorie du complot, c'est qu'en fait, Valve signe des accords avec ce type de développeur, comme celui dont on avait parlé, je sais plus si c'était House Party ou un truc comme ça, là.
C'est House Party.
Voilà, parfait. Et du coup, après qu'il y ait eu ce souci avec Valve, qu'il a retiré, qu'il a remis, j'avais checké les ventes et ça avait explosé. Donc, ce qu'ils font, en fait, c'est qu'ils prennent des accords avec ce type de développeur pour faire ces espèces de buzz pour qu'en fait, les ventes augmentent et ils prennent un pourcentage. Voilà.
Ouais,
c'est
pour moi
la seule explication viable. Mais non, parce que c'est trop ridicule. Tu mets rien dans ta réglementation et derrière ça, à chaque fois, tu viens prendre un développeur comme ça pour leur dire « Ouais, censurez votre jeu » ou « Vous barrez. »
Vous respectez pas mes guidelines, c'est
voilà,
scandaleux.
Mais il y en a pas de guidelines.
T'as vu tes guidelines un peu? T'as vu la gueule que c'est? En plus, on est venu te voir, on t'a demandé si c'était bon, tu nous as dit « Ok, pourquoi maintenant tu nous dis que c'est plus bon ?» Tu vois, ça me rappelle un peu quand GOG avait refusé un jeu parce que... Ouais, parce que j'ai envie, tu vois, c'est
ouais,
un peu ça.
Ouais, voilà,
à un moment donné, si t'as des conditions d'entrée, il faut être précis dedans. Alors, ça serait mieux de faire le tri à l'entrée. Bon, admettons, on va laisser tomber ma... Bon, je sais que c'est ma marotte, hein, je reviens à chaque fois là-dessus. Ce serait bien de faire le tri à l'entrée, mais bon, vous voulez pas le faire, très bien. Si vous le faites pas et que vous faites le tri après coup, au moins faites l'effort de faire un système qui soit suffisamment clair pour les développeurs, pour qu'après, vous ayez une bonne raison de les retirer, là. Moi, je suis désolé, c'est pas normal. Et surtout, imaginez, vous êtes développeur, vous avez un business, etc., vous sortez un jeu, et parce que les guidelines de Valve sont pas claires, du jour au lendemain, on te retire ton gagne-pain, quoi, en fait. Mmh. Alors, moi, je veux bien que certains ne portent pas les jeux porn dans leur cœur, et encore une fois, ce sont plus des jeux érotiques que des jeux porn, très bien. Et là aussi, là-dessus, il va falloir arrêter d'être hypocrite à un moment donné. Je vois pas pourquoi on pourrait faire des jeux ultra-violents et pas des jeux érotiques. Hein, ça aussi, ça me dépasse un peu. Mais à un moment donné, je vois pas pourquoi les développeurs de jeux érotiques n'auraient pas le droit d'avoir une certaine sécurité quand même vis-à-vis de leur présence sur leur store, quoi. Il y a des guidelines qui doivent être claires, soit ils les respectent, soit ils les respectent pas, point. On peut pas se contenter de la situation actuelle qui est, comme on n'assume pas, on a fait des guidelines un peu vagues, et si demain on change d'avis, bah vous dégagez. C'est pas normal, je suis désolé, c'est pas normal. Et que ce soit des développeurs qui fassent des jeux en dessous de la ceinture, n'excuse pas ça non plus, quoi.
Ouais, clairement.
Bon, soit dit en passant, je ne suis bien évidemment pas d'accord avec Dwayne. Moi, je pense que c'est de la pure incompétence. Voilà.
Ma théorie du complot n'est pas est tout à fait viable, monsieur.
Bon, on s'arrête là, messieurs, ou on... vous avez quelque chose à rajouter?
Oui, c'est de la faute du gouvernement.
Bon, allez, on va passer à notre jeu du moment. Et le jeu du moment, c'est A Way Out. I was convicted for the murder of my own brother. I'm going to set things right. For me and for my family. Did you hear about the weather? I did. It's our window. We'll leave tonight. You messed around in the... Here we go! Come on!
Everybody stay calm.
Listen to the ambulance.
Start talking.
Stop it, man.
Bon, Ben.
Ouais.
C'est l'heure de vérité. Est-ce que tu peux nous rappeler un peu le concept de A Way Out ?
Alors, A Way Out, c'est un jeu qui est entièrement coop sur un écran qui est quasiment tout le temps splitté.
Mm-hmm.
Le pitch de base, c'est deux personnes qui se retrouvent en prison, qui ne se connaissent pas, qui arrivent d'univers totalement différents, et qui vont essayer de se sortir de là. Et forcément, ben voilà, qui dit jeu coop, dit entraide, dit beaucoup de choses à faire à deux, etc.
Voilà. A Way Out, c'est un projet que j'attendais beaucoup, parce que c'est un projet de monsieur Joseph Fares. Monsieur, il a fait un jeu que je considère comme un monument. Ce monument, c'est Brothers, A Tale of Two Sons. Et pourquoi je considère comme un monument? Parce que pour moi, c'était un peu une leçon de jeu vidéo, Brothers. Vous savez, on a beaucoup de jeux qui se disent narratifs, et qui, en tout cas, c'est mon opinion personnelle, n'exploitent pas vraiment les spécificités du média jeu vidéo. C'est-à-dire qu'on se retrouve souvent avec des jeux où tu poses la manette, tu regardes ce qui se passe et de temps en temps, t'as demande d'appuyer sur un bouton pour choisir entre A, B, C ou D. Et voilà, il se passe quelque chose et t'as des embranchements et voilà, ça se passe. Brothers, c'est un jeu qui ne se contentait pas de montrer les choses, il te les faisait vivre. C'est-à-dire que c'était un jeu où il y avait deux personnages qui étaient très marqués, le grand frère et le petit frère. Le petit frère pouvait faire certaines actions que pouvait pas faire le grand frère, etc. Et surtout, c'est un jeu que tu ressentais dans ta chair, en fait. Jusque dans ton interaction avec la manette, le jeu te faisait vivre son aventure. Et ça, c'est quelque chose pour moi qui est d'assez unique dans le jeu vidéo. Et donc, forcément, quand ce gars-là m'annonce qu'il va faire un autre jeu narratif, et cette fois en coop, ben, le jeu, autant vous dire que j'attends avec beaucoup d'impatience. Et quelle ne fut pas ma déception, Ben. Parce que, enfin, moi, je sais pas pour toi, mais les débuts, en tout cas, ils sont très très difficiles.
Ouais, c'est... Ben, je pense que, comme tu as dit, Brother a mis une claque à beaucoup de monde.
Mm-hmm.
Parce que personne n'attendait ce jeu, personne, voilà, c'était, il était sorti un peu nulle part et ça a mis une claque à beaucoup de monde. Ce jeu-là, Way Out, est annoncé, du coop entièrement à deux et tout ça. Enfin, on se dit, bon, s'il reprend un peu les codes du premier en améliorant un peu tout ça, ça peut être que bien. Et on a vite déchanté parce que soit c'est du coop, mais toute la première partie, c'est du coop qui est vraiment inintéressant.
J'ai envie de dire, c'est du coop dans un jeu de David Cage.
Ouais.
Oh, dur.
Non, mais, non, mais voilà, enfin, je veux dire, moi, il y a une séquence qui m'a marqué en début de jeu, c'est la séquence du réfectoire, où t'as un QTE pour manger. Et là, pour moi, c'est le symbole de la vacuité dans toute sa splendeur, quoi. C'est, bon, heureusement, ça s'améliore par la suite, hein. Dieu merci, tout le jeu n'est pas comme ça, mais quand je suis arrivé là et que j'ai vu ça, j'ai fait « Mais mon Dieu, c'est vraiment le gars qui a fait Brothers ?» Et le pire, c'est que, à côté de ça, le jeu, au début, enchaîne des séquences qui cassent l'immersion. Par exemple, on vous dit « Oui, alors vous êtes dans une prison à l'américaine, etc. Va falloir vous évader et tout. » Alors, je sais pas pour toi, Ben, mais moi, c'est la prison la plus mal sécurisée que j'ai jamais vue de ma vie. Hein.
Ouais. Bah, disons qu'en une heure de jeu, à peu près, on était déjà sortis de prison, quoi. C'est...
Mais c'est même pire que ça, c'est que, genre, on te dit à un moment donné, va récupérer tel accessoire dans l'atelier qui va te permettre de t'évader et tout. Tu te dis, ouais, va falloir trouver des stratagèmes bien ficelés,
c'est
tu
ça,
vois,
oui.
Pour
tu vas
faire
pas sortir avec le tournevis dans ta poche, quoi.
Voilà, c'est ça. Bah, si, en fait. Tu sors le truc, une figure is a news. Le pire moment, je crois, c'est... Il y a un point de contrôle. Tu dis, oh putain, comment on va faire pour passer le point de contrôle? Bah écoute, c'est pas grave. Il y a le premier qui passe, tu vois. Et puis de l'autre côté, il y a une fenêtre, hein, juste derrière le point de contrôle. Tu y passes à la mano, comme ça. Et puis voilà, hein, tranquille, t'es caté. C'est super sécurisé, la prison, hein. Et en plus, t'es genre 2 mètres derrière le garde qui contrôle la sortie, quoi. Et pour moi, c'est le plus gros problème de A Way Out. C'est-à-dire que c'est un jeu qui propose beaucoup de trucs sympatoches. Par exemple, c'est un jeu qui est rempli de mini-jeux, Ben. Je crois que tu seras d'accord avec moi. Il y a plein de petits jeux sympas, tu sais, où tu passes un moment super chouette et tout. Et tu te dis, ah, c'est quand même intéressant qu'ils aient mis tous ces petits trucs. On peut essayer de jouer l'un contre l'autre, etc. Franchement, c'est cool.
Alors ça, j'ai trouvé ça sympa, mais ça peut aussi casser un peu l'immersion. Alors nous, on n'était pas à fond dans l'immersion parce que pour tout ce que t'as dit, le problème c'est que au bout d'un moment, donc tu sors de prison, t'es en fuite, et puis tu te retrouves dans une maison et tiens, tu vas aller jouer aux fléchettes ou tu vas aller couper du bois, tu vas faire des trucs comme ça. Donc tu te dis, si t'es vraiment immergé dans le jeu et que t'as cette sensation de que t'as les flics qui te poursuivent, etc., ça a rien à faire là. Après nous, je pense que vu qu'on n'était pas à fond dans le jeu et que voilà, ça, on a trouvé ça sympa, ça faisait passer un bon moment.
Mention spéciale Ben pour la séquence de puissance 4. On a eu
qui a bugué.
On a eu un bug assez magnifique. Alors si on avait été immergé dans le jeu, bon, on l'était pas heureusement, hein, mais si on avait été immergé dans le jeu, je crois qu'on aurait été sorti direct. Enfin, dès qu'on a arrêté le jeu, en fait, il y a Ben qui s'est retrouvé coincé dans le fauteuil, je crois, ou quelque chose comme ça.
En fait, ouais, j'étais assis et quand je sortais du fauteuil, mon personnage restait dans sa position assise et était bloqué. Enfin, c'était un peu bizarre.
Et par rapport à ce que tu disais avant, justement, cette séquence de puissance 4, elle illustre très bien ce que tu expliques. C'est-à-dire que on a deux gars qui sont en fuite, qui viennent incognito dans un hôpital pour rencontrer quelqu'un, et ils font une partie de puissance 4, comme ça, à l'entrée, tranquille, au KLM, tu vois, il n'y a pas du tout des flics qui nous cherchent partout, hein, on est bien. Et pour moi, finalement, c'est ça le plus gros problème du jeu, c'est que, en permanence, j'ai eu une dissonance ludo-narrative, mais à tous les coins de rue, quoi. On nous explique, par exemple, que ces deux protagonistes, il y en a un, c'est le mec un peu futé, etc., qui essaye d'être un peu subtil et tout. Il y a l'autre, c'est le mec un peu bourrin, qui va aller dans l'art, etc. Sauf que ces deux mecs, ils se jouent exactement de la même façon. On te dit qu'ils sont en fuite, à part les séquences d'action un peu rythmées, t'as jamais vraiment la sensation d'être en fuite. Moi, finalement, je pense que c'est ce qui m'a sorti tout le long de l'aventure, c'est que pour toutes les séquences chouettes qu'il peut y avoir, et je pense qu'il y en a quand même quelques-unes, je pense notamment une séquence de rafting, on va dire, où ça demandait vraiment qu'il y ait une coordination entre nous deux, ouais, qui était vraiment chouette, et toutes les séquences, en fait, qui exigent qu'il y ait une vraie coordination entre les joueurs, je pense qu'elles nous immergeaient pas mal. Le problème, c'est qu'à côté de ça, t'as plein de séquences qui sont pas bien rythmés, où il n'y a pas vraiment de coopération entre moi et Ben, et où il y a cette dissonance ludo-narrative qui gâche tout, quoi.
Ouais, ouais, bah, comme tu l'as dit, il y a des séances de coop qui sont très intéressantes. T'as cité le rafting, il y a un moment une course-poursuite en voiture où il y en a un qui conduit, l'autre qui tire et qui est pas trop longue, mais qui arrive au bon moment et qui est vraiment sympa. Et par contre, il y a toute une partie où à un moment t'es dans la forêt et la seule interaction entre les deux, c'est quand t'arrives devant une grosse pierre, il y en a un qui se met un peu à genoux pour aider à soulever l'autre, quoi. Et ça, tu le fais 10 fois dans le jeu. À un moment, t'arrives à un camping, il faut que tu pêches des poissons. Enfin, ben c'est juste le moment où, d'ailleurs, tu t'échappes de prison. La première scène qui arrive après, t'arrives à un espèce de petit camping et t'as une mare et il faut que tu chopes 2 poissons. Voilà.
Ah, c'était passionnant. Hein. La pêche aux poissons, c'est déjà pas si chiant dans les RPG japonais. Il fallait les mettre dans des jeux occidentaux aussi.
Et ouais, ça arrive pas bien, quoi. Ça arrive pas au bon moment. Et il y a vraiment des séquences de où ils ont essayé d'intégrer en fait de la coop et qui ont pas grand chose à faire là, qui méritaient pas. T'as vraiment l'impression qu'ils se sont dit, tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'ils soient deux? Ah, bah, il y en a un qui va pousser les poissons et l'autre qui va essayer de les pêcher, quoi. Enfin,
c'est ça.
Et il y a plusieurs scènes comme ça qui arrivent dans le jeu, toujours dans ce moment où tu devrais être en course-poursuite avec les flics et finalement, bah, tu passes ton temps à pêcher ou à allumer un feu ou à, voilà, c'est...
Mais le pire, je crois, dans ces séquences, c'est le level design, mais non. Franchement.
Oui, en plus de celle-là, celle-là
était
sacrément pourrie.
Mais tu sais, tu vois le jeu, tu dis, mais t'es pas en train de te foutre de ma gueule, en fait. C'est-à-dire, à de nombreuses reprises dans le jeu, enfin, le jeu, c'est un immense couloir, hein, je vous le dis tout de suite. Enfin, un immense couloir. Non, c'est un petit couloir, justement. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait un couloir, tu vois. Par contre, ça me dérange beaucoup plus quand on essaie de me faire croire que j'ai des choix, alors qu'en vérité, j'en ai zéro, quoi. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs moments dans le jeu où on va te mettre genre chemin A ou B, sachant que le chemin A ou B mène exactement au même endroit, qu'il n'y a pas un level design hyper recherché, c'est-à-dire que les séquences se déroulent exactement de la même façon, quel que soit le chemin que tu prends, ça a aucune conséquence narrative. En fait, les quelques choix qu'on te donne, que ce soit dans l'orientation, que ce soit dans l'approche que tu vas choisir, etc., n'ont aucune conséquence. Et ça, c'est très très frustrant aussi.
Exactement, ouais. Ça commence, voilà, comme tu l'as dit, dans l'orientation, que, bah, quand tu te retrouves un peu dans la forêt, il y a des moments où t'as des petits embranchements, bah, nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dit, bah, tiens, il y en a un qui va d'un côté, l'autre, il va passer par l'autre côté, on va voir ce que ça donne, etc. Et puis, au final, 3 virages plus tard, tu te retrouves au même endroit, avec rien qui a changé. Et pareil, on a essayé un moment sur une phase un peu plus de gameplay où tu fais une espèce de petit braquage, de faire des choix différents, et c'est exactement la même chose pour le même résultat, enfin, c'est, voilà.
Bon, à sa décharge, on n'est pas au niveau de Walking Dead où t'avais même pas besoin de recommencer pour te rendre compte que le jeu se foutait ta gueule. Hein. Je pense que si tu fais le jeu une fois, l'illusion peut passer. Et si tu cherches pas comme nous à tester
nous, on n'est pas les
jeux en fait. Voilà.
Oui, voilà. Ouais.
Par contre, moi, je suis désolé, mais venant du gars qui a fait Brothers, je m'attendais un peu plus, quoi. C'est ça le truc.
Ouais, en fait, c'est ce qui a joué aussi contre nous, c'est que on s'attendait à vraiment quelque chose de bien. Et on se retrouve avec un jeu qui est plutôt moyen, qui a pas que des bonnes ou des mauvaises idées, qui est vraiment moyen. Sauf que, bah voilà, on s'attendait à vraiment un truc, une expérience coop vraiment sympathique et on l'a pas eu.
C'est ça.
On l'a eu par moments et sur d'autres moments, on s'est vraiment demandé ce qu'on foutait là, quoi.
Ouais. Et ce d'autant plus que sur le point principal où le jeu devrait briller, il y a quand même quelques soucis. Je parle bien entendu du scénario, de la narration, parce que, moi, je veux bien qu'on me dise je me prends pas la tête, tu vois, je mets mon cerveau sur off. Ok, d'accord. Sauf que à un moment donné, quand même, c'est un jeu narratif et que je sais pas moi. Dans un jeu narratif, j'attends que la narration soit genre irréprochable parce que c'est un peu quand même le point principal du jeu, quoi. Le gameplay, il est sympatoche sans plus, quoi, on va dire. Et encore, je suis très gentil, hein. Il y a des moments où le gameplay est nul à chier. Je pense notamment à la dernière phase de shoot, là, qui est absolument interminable et t'en peux plus, quoi. La narration, c'est tous les clichés du genre compilés.
Voilà, ils ont pris tous les clichés des prisons américaines et de cet univers-là, et ils ont dit, allez, on fait une croix et on met tout dans le jeu, quoi. C'était vraiment... Check, il y a ça, très bien.
Mais
quoi.
C'en était un point où on prévoyait ce qui allait se passer, quoi. On jouait au jeu de, ok, la scène suivante, il va se passer ça. Et ça se passe. À un moment donné, je t'assure, j'avais l'impression de voir les défauts d'un jeu David Cage, mais en coop, quoi. C'est-à-dire que tu vois toutes les séquences de films qu'ils ont pompées, en fait, et c'est pas fait de manière particulièrement brillante. Et même pire, j'ai vu des gens qui ont dit, ouais, c'est un jeu qui m'a fait rire. Ouais, moi aussi, il m'a fait rire, mais pas pour les bonnes raisons. Il y a des moments où il est tellement cliché, en fait, que ça en devient ridicule, quoi.
Bah ouais, c'est un peu poussé à l'extrême. Et voilà, c'est un jeu qui est censé être narratif avec des phases de gameplay un peu plus action, mais qui, au final, ne fait ni l'un ni l'autre, parce qu'il fait mal l'action et il fait même pas bien la narration non plus. Alors, c'est assez compliqué.
Mais le pire dans tout ça, c'est que, vous voyez, là, le jeu, on l'a pas mal cassé, hein, mais il y avait du potentiel.
Mais en fait, c'est ça aussi. C'est pour ça qu'on a été déçus, parce qu'il y a des bonnes idées au milieu.
C'est ça. Les séquences qui mettent vraiment en avant la coop, où c'est pas juste du bouton mashing, et où je devais discuter avec Ben pour organiser des trucs, etc., ça, c'est intéressant. Et c'est dommage, en fait, que toutes ces séquences soient gâchées par tous les points qu'on vient d'évoquer, quoi. Surtout qu'il y a une séquence finale qui aurait pu être excellente, mais elle a mille fois moins d'impact parce que en fait t'es plus dans le jeu quand t'arrives à ce moment-là, quoi.
Bah c'est ça, voilà. Dans Brother tu prenais la claque à un moment donné du jeu, et là au final au bout d'un moment il y a un petit truc et en fait bah tu dis ok bah c'est bien, on va finir le jeu.
Voilà.
Et voilà, en parlant de fin du jeu, on a joué quoi, 6-7 heures pour le finir.
Ouais, un truc comme ça.
Alors à noter quand même, très bon point. Il n'y a besoin que d'une seule copie pour jouer au jeu à deux.
Ouais, et ça, c'est vraiment le truc que je voulais souligner. C'est quand même un jeu qui a eu du succès, et je pense qu'il le mérite, parce que, bon, nous, on n'a pas aimé le jeu. Mais je pense que, pour ceux qui ont apprécié le jeu, en tout cas, on peut pas dire que Electronic Arts a été salaud avec eux. C'est-à-dire que, pour une fois, Electronic Arts a fait le bon choix. Vous achetez une copie à 30 balles, vous pouvez jouer en coop avec votre ami sans qu'il y ait à acheter le jeu. Et ça, franchement, je voulais juste saluer ça pour terminer, parce que même si on n'a pas apprécié le jeu, je reconnais qu'au moins, ils ont essayé de faire les choses proprement. Pour un jeu en coop, ils ont fait la bonne décision, quoi.
Ouais, c'est clair. Pour un jeu voilà qui est entièrement coop, avec en plus écran splitté les trois quarts du temps, c'est vrai que tu te dis, c'est un seul jeu, même si tu y joues à deux. Et c'est vrai que, j'ai pas le souvenir qu'il y ait eu des jeux déjà comme ça et qu'il y ait eu besoin que d'une seule copie pour jouer à deux en coop en ligne. Pour moi, c'est à peu près une première dans ce monde-là.
Voilà. Donc, A Way Out, personnellement, une belle déception. J'en attendais beaucoup. Et surtout, il y a des trucs que je comprends pas dans le jeu. Je comprends pas que quelqu'un qui avait compris avec Brothers qu'il était important de distinguer les protagonistes, y compris sur le plan du gameplay, n'ait pas fait la même chose dans son nouveau jeu. Certes, la narration de Brothers était extrêmement light, mais comme il y avait plein de choses qui passaient de manière non verbale dans le gameplay, ça marchait. Et l'une de ces choses, c'était le fait que le grand frère, il n'est pas pareil que le petit frère. Et tu le vois, tu le ressens dans le jeu. Et dans A Way Out, malheureusement, J'ai l'impression qu'il a complètement oublié ça, quoi. Ou alors peut-être que c'est un coup de bol dans Brothers, je sais pas. Mais le simple fait d'avoir deux protagonistes parfaitement interchangeables, qui n'ont aucune différence d'un point de vue gameplay, ça cache tout, en fait. Il fallait vraiment faire deux personnages qui se complètent et qui poussent les joueurs à interagir durant les différentes séquences.
Moi, du coup, les gars, j'avais une question pour vous par rapport à tout ça. Est-ce que déjà, vous pensez pas qu'il est parti vraiment avec un mindset totalement différent, c'est-à-dire que vu qu'il est parti sur un jeu coop, moi par exemple j'allais le faire avec mon père, donc qui est pas du tout gamer, je lui ai montré, ça lui a plu, il m'a dit ouais je veux bien qu'on le fasse, tout ça, donc je vais lui acheter une PS4, etc. Et du coup, est-ce qu'il est pas parti justement avec ce mindset de faire quelque chose de vraiment très simple ou autre?
Je vais juste poser une question, est-ce qu'on peut faire plus simple que Brothers? Vraie question, hein, parce que...
Ouais, je vois ce que tu veux dire.
Regarde Brothers, c'est pas le jeu le plus complexe du monde, quoi. Alors, certes, il y a le fait de devoir gérer les deux sticks, si tu veux, mais en termes de possibilité d'action, si tu veux, c'est pas un jeu avec un gameplay de ouf malade, quoi. Je veux dire, tu contrôles le grand frère, tu contrôles le petit frère, ils ont chacun des actions contextuelles que tu enclenches en appuyant sur des boutons. Je trouve même que A Way Out est plus complexe sur certains points. C'est-à-dire que, par exemple, toute la séquence TPS, c'est mille fois plus complexe que tout ce que tu peux voir dans Brothers, hein. Alors certes, une séquence TPS ultra simplifiée, enfin en termes de difficulté, je parle. Hein. Mais d'un point de vue contrôle, moi je suis désolé, hein, je suis pas sûr que ton père il va être à l'aise, hein, avec la séquence TPS. Surtout qu'elle dure 3 plombes en plus.
Ouais, y en a une qui est assez longue. Ouais.
Après, je pense que sur ce jeu-là, il a essayé d'exploiter des trucs genre. Le fait qu'il y a un joueur qui voit pas ce qui se passe, parce que t'es en train de te concentrer sur un truc, du coup il faut que ton coéquipier t'explique ce qui est en train d'arriver, etc. Il a vraiment essayé de pousser l'aspect coop dans ce projet-là, sauf que pour moi ça marche pas en fait. C'est bien ça le problème, c'est que le sujet même du jeu est tellement simplifié que ça colle pas. Il y a quelques séquences comme ça où tu sens qu'il y a un potentiel, mais en tout cas sur ce projet-là, pour moi il s'est planté là où il avait réussi magistralement avec Brothers.
En fait, ouais, c'est un jeu qui a des bonnes idées, mais il y a trop de séquences forcées, en fait, de coop qui te sortent du jeu et qui cassent l'immersion et qui te font jamais rentrer ni dans la peau des personnages, ni dans le jeu totalement, en fait.
C'est ça.
Vraiment dommage, en tout cas, parce que, en fait, dès que tu dis Brothers, j'ai réellement des frissons. Ouais. Enfin, je repense à la séquence de fin, mais qui, justement, est amenée par toute la progression du jeu, quoi.
Oui, la séquence de fin est marquante. Parce que tout ce qui se passe avant.
C'est ça, ouais.
Mais notre problème, nous aussi, gamers un peu avertis, c'est que bah voilà, qu'on a fait Brother, que ça nous a fait quelque chose à tous parce que personne s'y attendait vraiment, et que bah quand t'arrives dans le jeu en te disant c'est la même personne qui l'a fait, bah tu t'attends voilà à au moins prendre une claque à un moment donné et voilà tu l'as jamais.
Honnêtement, pour quelqu'un qui apprécie les expériences de Zavika, je pense que ça peut être un super jeu, tu vois.
Non, mais ça m'étonne pas après qu'il ait eu un certain succès en fait.
Oui, ouais, non, mais moi non plus, tu vois. Mais moi, si tu veux, Brothers, c'est une expérience que j'ai intégrée, que j'ai assimilée. Il y a plein de trucs maintenant qui ne passent plus à cause de ce jeu, tu vois. Parce que c'est un jeu, quand j'y ai joué, je me suis dit, voilà, la narration, l'émotion dans le jeu vidéo, c'est ça. Et quand tu me files un jeu qui, pour moi, est un énorme bond en arrière par rapport à son... prédécesseur, ben, il y a des trucs qui passent pas. Même s'il y a quelques bonnes idées, ça passe pas. Mais après, il y a des trucs, hein, il essaye de faire des choses, hein. Mais, moi, je suis désolé, tout le long, j'étais pas dedans, quoi. Enfin, je pouvais pas m'empêcher de critiquer ce jeu, quoi. Parce que, il y avait trop de trucs qui me sortaient, de l'expérience.
Ouais, c'est je crois que la leçon finale, du coup, c'est, si vous avez pas encore fait Brothers, faites-le.
Voilà, c'est ça.
Ouais. Ouais.
Bon, allez, on va s'arrêter là pour cette semaine.
Ouais.
On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao à tous.
Bye bye.
Salut.